Je passe immédiatement la parole à Sol Wexer, donc chargé de recherche au CNRS, une psychologue, et à Luc Romaine, donc professeur d'université. Ce sont les deux instigateurs de ce projet. Ils le mènent très 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 correctement. Et je vous laisse, donc je les laisse présenter ce qu'est le BIM.
Bonjour à tous. Donc je suis Luc Romaine, je me représente en deux secondes, Romaine, professeur à l'université. Je porte ce projet avec Solveig, qui va elle-même se présenter. Je remercie Laurent d'avoir fait ce préambule très, très chaleureux. Cher Laurent, merci. Mais alors vraiment, il y a Solveig aussi, hein, sur la construction du projet, je suis pas tout seul. Voilà. Merci d'avoir rappelé ou dit aussi qu'une partie de mon identité, c'est important pour la question qui va suivre, c'est d'être musicien aussi. Voilà, je joue notamment avec Céline. Et ça me donne l'occasion de dire que, parce qu'on y reviendra, la question des scènes, c'est vraiment une question ouverte. Il y a des liens entre toutes les villes. Et je salue au passage notre Jean-Claude, qui est le représentant du label de Strychnine, jeudi production, qui est un label montpelliérain. Je salue Thierry Tuborg, qui est effectivement l'ancien chanteur de Stalag, qui est un Bordelais exilé à Montpellier. Bon, bref, tout ça pour dire que les scènes, et on y reviendra, sont aussi caractérisés par cette circulation des acteurs. Donc il y a le côté l'identité locale, mais il y a aussi la dynamique, et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc voilà, je passe la parole à Solveig. On va présenter le projet de manière un petit peu formelle, et peut-être qu'on dira des choses sur le punk que beaucoup connaissent, mais comme on a envie de donner cette information à tout le monde, ben on repart un petit peu sur cette histoire. Il y aura donc un côté peut-être un petit peu formel, on s'en excuse par avance. Solveig.
Bon, merci à tous d'être si nombreux un samedi. Surtout que c'est un peu une première pour nous, en fait, de le faire à l'université, parce que d'habitude, on essaie justement d'extraire ce qu'on fait de l'université, parce qu'on dit que ça fait un peu peur d'aller à la fac le samedi. Donc, c'est une première, mais là, vous êtes venus nombreux, donc on est plutôt très contents. Alors, on va prendre un petit quart d'heure pour vous présenter le projet, afin que vous compreniez ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on est là. Alors, je vous fais l'offense de vous rappeler ce qu'est le punk, mais très souvent, on parle à des publics qui ne savent même pas ce que ça veut dire, donc on essaie de faire quelque chose où ils puissent comprendre à la fin. Alors, on est en 1976, et de manière quasi simultanée, dans tout un tas de pays occidentaux et en Australie, un nombre important de petits groupes vont être désignés par l'industrie musicale ou s'auto-désigner comme punk. Un terme qui est un vieux terme qu'on retrouve déjà chez Shakespeare, qui signifie vaurien, prostitué, pourri, voyou, et qui appartient à tous ces mots anglais assez jurons de une syllabe fuck, shit et punk. Alors là, on vous a pris la couverture de Sniffing Glue, Sniffer de la colle, hein, ça donne une idée, en 1978, qui exprime vraiment très bien ce qu'est le punk. Donc on prend un accord, en tout cas ce qu'il est censé représenter. On prend un accord, on en prend un autre, on en prend un troisième, et hop, on fait un groupe. Donc le punk, c'est ça. C'est contre la musique progressive des années précédentes, avec des types qui avaient fait le conservatoire, dont les morceaux duraient 25 minutes, qui savaient très bien jouer et composer. Le punk, c'est tout l'inverse de tout ça. Maintenant, on a des morceaux de 3 minutes, qui correspondent aussi à une autre durée du trip, qui est celui plutôt des drogues qui excitent et pas des drogues qui font planer. Et voilà, donc là on est en 76 et vraiment une apparition simultanée assez étonnante, même de la part de groupes qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient jamais eu des contacts avec les autres et qui se mettent à faire le même style de musique.
Bon, ben, premier exemple, Star Shooter. Pourquoi Star Shooter? Parce qu'on a un bon exemple de ce qu'est fondamentalement le punk, une impertinence, un mode de subversion. On va détrôner les grandes idoles, les grandes figures, hein, regarder un petit peu ces monuments, comment on peut les déboulonner. En gros, la musique des Beatles, c'est de la musique de merde, on n'en veut pas, on va faire autre chose. Hein, on va vous montrer ce qu'on est. Voilà, c'est de la musique pour ringard, j'en ai rien à foutre, qui crève. C'est une adresse extrêmement provocante, ça démarre comme ça, sur cette espèce d'étincelle extrêmement impertinente et provocante. La question du punk en France, c'est aussi tout de suite un festival. Alors Thierry Salté est là, il a consacré un ouvrage à ce festival, qui est quand même le premier festival punk du monde. Hein. Je pars sous ton contrôle, Thierry. Quelque chose qui est décidé quasiment au coin d'une table, entre quelques bières, et qui va mettre en relais On est tout de suite sur la question du on le fait, on a envie de le faire, on le fait, la débrouille. Pas encore do it yourself, hein, c'est la débrouille, on va monter ce truc-là. Alors avec des connexions, hein, Zermatic est à Paris, là à Toulouse, André-Marc Dubos à Mont-de-Marsan, qui ont déjà des assos, et ça se monte, et puis tout d'un coup, il y a une affiche. Il y a une affiche avec des groupes anglais, écossais, américains et français. Voilà, le First European Punk Rock Festival 1976. Ça permet de donner une borne à ce dont on est en train de parler, parce que tout peut se discuter. Après tout, les Ramones avaient commencé en 1974. Hein, donc on peut considérer que 1976, c'est un peu illusoire, mais on a toujours besoin d'une borne, ne serait-ce que pour la discuter précisément. Or, il se trouve que là, on a tout d'un coup quelque chose qui connecte les gens, et puis qui va commencer à être médiatisé, discuté, cette affiche, ce festival de Mont-de-Marsan en 1976, et qui n'est précisément pas à Paris. Hein, vous aurez remarqué voilà. Alors, quelques images de ce festival qu'on retrouvera aussi dans le livre de Thierry, qui permettent de montrer aussi qu'est-ce que c'est le loop punk en 76 ou en 77 en l'occurrence. Bah, c'est pas trop des crêtes, hein, c'est plutôt des spikes, c'est plutôt des loops où on a encore des cheveux longs, où on voit que finalement il y a une espèce de bouillonnement, hein, de bouillonnement dans ces arènes de Mont-de-Marsan. Voilà. L'épingle à nourrice, qui est sans doute peut-être l'emblème le plus marquant de cette première génération punk. Et puis, quelque chose qui est de l'ordre du détournement, qui va aussi faire partie de la culture punk, c'est le fanzine. Alors, l'Écho des Sauvages, qui est un fanzine qui est créé par des lycéens qui sont venus voir ce festival. Et on a sur cette carte de France, avec Mont-de-Marsan qui est partout, on retrouve cette impertinence. Hein, cette manière d'amener quelque chose de nouveau, d'impertinent, une espèce de subversion. Sur la capitale de la France, au fond, c'est Mont-de-Marsan. Hein, on n'en a pas de doute.
Autre mœurs, êtes-vous punk? Bon, c'est facile à vérifier, vous vous mettez en face d'un miroir. Si vous avez les cheveux courts, jaunes, verts ou rouges, si vous avez une épingle ou un clou planté à travers la joue, si vous avez de petites croix nazies dessiné sur le front, bref, vous êtes un paumé et vous êtes un punk, c'est la traduction anglaise. Et si vous êtes punk, vous serez sans aucun doute ce soir ou demain à Mont-de-Marsan pour le premier festival de punk rock, la musique de ce nouveau phénomène social. Marginal, bien sûr, comme tous ces mouvements de révolte qui se sont succédés depuis les azous, les rockers et les hippies. Avec le punk, la philosophie est simple, révolte intégrale, toujours plus loin dans la provocation. Le punk vient d'Angleterre. Claude Gagnère, notre correspondant à Londres, a rencontré ses paumés.
On aime bien cette vidéo parce qu'elle donne une image, enfin ça donne une bonne impression de comment les médias au début ont reçu le punk et l'ont diffusé, c'est-à-dire comme quelque chose d'extrêmement marginal. Et c'est aussi là-dessus qu'on travaille et c'est aussi des idées reçues qui continuent à durer qu'on essaie de déconstruire patiemment. Alors là, on avance un tout petit peu, on en est à la dissolution des Sex Pistols et à la fin. Ça aussi, pour nous, c'est important parce que ça se discute de toute une première vague de punk qui fait dire à certains qu'en fait, le punk est mort en 78 et que plus rien ne s'est passé après et que les autres, c'est des faux punks. Voilà. Donc évidemment, nous, vous avez remarqué, on travaille jusqu'en 2016, c'était pour la rime 76-2016, mais on va jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette idée qu'au contraire, le punk s'est profondément renouvelé en 40 ans, en se métamorphosant aussi parce que les contextes socio-économiques, politiques évoluaient. Et donc c'est vraiment sur cette évolution, sur ces 40 ans qu'on travaille. Mais on assiste à des conflits très forts de mémoire autour de certaines personnes de la première génération qui nous disent « ça a duré 2 ans et après c'était fini et plus rien, tout ce sur quoi vous travaillez, c'est complètement pas vrai, c'est plus. » Voilà, ça c'était pour illustrer justement les changements de contexte politique des années 80 avec Thatcher en Angleterre et bien aux États-Unis et une évolution aussi dans les groupes punk, dans leur message, dans la manière de faire de la musique. Jusqu'à arriver aujourd'hui à une troisième ou une quatrième génération. Vous le voyez dans les looks qui est assez différente de celle de Mont-de-Marsan qu'on vous a montré sur les photos, beaucoup plus hybridée, avec des dreads, avec des treillis, enfin des choses assez différentes, aussi avec des messages assez différents, hein. Straight edge, plus d'alcool, vegan, etc.
Il y a un monde entre Stephen Blue d'un côté et vegan de l'autre, hein, c'est
sur le monde. Vegan Asie.
Voilà. Et dernière chose intéressante pour nous, c'est que le punk s'est depuis déplacé de l'épicentre occidental dont il était issu pour arriver dans des pays où être punk ne représente pas exactement le même danger que sous la France de Giscard. En gros, là, on vous a mis un article du Monde où, en gros, les punks, on les prend, on les rase, on les met dans le ruisseau, on les envoie en prison parce qu'ils étaient punks. Et donc, on se rend compte comment cette révolte s'est transportée dans d'autres contextes, dans d'autres pays, et prend des formes radicalement plus tragiques. Donc, ça, c'était aussi intéressant de voir cet élargissement de l'Oxford, en gros, des démocraties occidentales à d'autres zones beaucoup plus à risque, où être punk représente un risque pour sa vie. Hein. Alors c'est un peu long, mais ça fait pas trop peur. À quoi ça sert notre projet? Alors notre projet sert à trois choses. La première, c'est qu'on en avait marre d'entendre dire qu'il y avait eu du punk qu'en Angleterre et aux États-Unis. La preuve, vous êtes tous là aujourd'hui, voilà. Et donc on a voulu montrer que, on veut montrer, et c'est pas encore tout à fait gagné, que le punk c'est pas juste un produit d'import anglais ou américain. La preuve, d'ailleurs, ça se chante souvent en français, le punk français. Et l'autre chose qu'on voulait aussi analyser, c'était quelle pouvait être l'influence, donc de l'autre côté, du punk français sur les pays comme l'Angleterre ou les États-Unis ou d'autres pays. Quelle avait pu être l'influence de la France en matière de punk à l'étranger. La deuxième chose qu'on voulait montrer, c'est à quel point le punk était important pour, en gros, écrire l'histoire de France à partir d'une démarche. Donc, en gros, ce qu'on veut faire, c'est écrire une histoire de France à partir d'une marche qui en dit beaucoup sur la société. On y reviendra tout à l'heure, par exemple, sur la question de la femme, de la place de la femme, etc. Qu'est-ce que ça dit de la société? Qu'est-ce que ça cherche à dire? Et comment, en fait, ça porte le message d'un contexte extrêmement précis et daté aussi? Parce que c'est pas 76, c'est pas 85. Voilà. Alors, oui, mais c'est pas grave, on s'en fiche.
Voilà. Si, le dernier point est important, mais on va le retraiter à travers la question du temps, mais c'est ce qui nous intéresse et ce qui est fascinant, c'est comment on passe du no future, hein, qui était quelque part devenu un slogan, l'absence d'avenir, à quel avenir on veut construire ensemble et de quelle manière on veut le faire. Donc il y a quand même sur 40 ans cette espèce de révolution et d'accomplissement, hein, qui passe d'un message de désespérance, ou en tout cas qui est perçu comme tel, à quelque chose de beaucoup plus offensif et de beaucoup plus porteur. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pas et qu'est-ce qu'on veut. Voilà, en gros. C'est toujours moi qui parle. Voilà, donc je vais très vite. Hein, l'ambition du projet, c'est donc à la fois, ça a été un peu dit, casser les formes d'illégitimité de l'objet, hein, du punk, c'est-à-dire notamment auprès de nos institutions, évidemment, vous imaginez bien que quand on a commencé à arriver à l'université ou au CNRS avec un projet sur le punk, on y a quand même eu un grand blanc. Hein. Ça se fait pas comme ça, ça fait 5 ans qu'on est sur le pont, on a travaillé là-dessus. Ça commence à être entendu. On voit, et Laurent le prouve, que les institutions aussi nous entendent, et c'est important. Cette question de la légitimité, c'est aussi une affaire sociale, c'est-à-dire que plus globalement, pour l'ensemble des citoyens, nous, on a le sentiment qu'il faut que la culture punk soit aujourd'hui perçue comme un segment essentiel de ce qui s'est passé en France à un moment donné. Hein, c'est redonner aux acteurs l'importance de ce qu'ils ont pu être, faire, penser, dire à un moment donné. Voilà, pour nous, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est préserver une mémoire en péril. Alors, malheureusement, l'actualité le montre quasiment tous les jours. On est face à potentiellement une population de musiciens, d'artistes, de fanzineurs, etc., qui est extrêmement vulnérable, hein, pour X raisons, hein, notamment liées aux conditions de vie, à ce qu'on a pu faire sur scène, sur la route, avec la drogue, etc. Bon, donc, cette mémoire, elle est en péril à la fois sur les êtres, mais aussi sur les choses, c'est-à-dire, bon, quand un punk disparaît à 50 ans, en général, toute sa mémoire disparaît avec lui. Sa mémoire, c'est aussi ses fanzines, ses archives, etc. Donc nous, on s'est intéressé à cette question de la fragilité des témoignages, de la mémoire, de tout ce qui constitue la culture punk, hein, que ce qu'elle soit musicale ou visuelle, esthétique, graphique, textuelle. Donc c'est préserver cette mémoire, pour nous, c'est fondamental. À un moment où, je le redis, encore une fois, l'actualité le montre dramatiquement, les gens sont en train de disparaître de manière assez précoce. Et puis, le troisième point, pour nous, c'était fondamental de replacer la musique au centre. Le punk, s'il n'y a pas la bande-son, il n'est pas là. Le punk, c'est d'abord une émotion musicale. C'est ce qu'on défend. Ça va vous sembler évident. Nos collègues anglais ne sont pas trop sur cette ligne-là. Il y a un Punk Scholar Network qui existe en Angleterre. Eux considèrent que le punk, avant tout, c'est politique et que la musique, c'est assez secondaire. Nous, on n'est pas sur cette ligne-là. on considère que la musique, c'est ce qui est premier. Et puis, ça nourrit d'autres choses, bien sûr. Ça permet d'être le véhicule d'autres choses. Mais l'émotion musicale, elle est première. Voilà. Donc, c'est notre postulat, notre hypothèse. Et c'est ce sur quoi on travaille.
Et la dernière chose de notre projet, c'est ce qui illustre la petite frise en bas, c'est qu'on voulait faire de la recherche avec les acteurs et pas séparément. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle chez nous de manière un peu, pas prétentieuse, mais de la science participative. L'idée, c'est en fait qu'on est inclus dans cette équipe, moi je dis peindre, mais bon, dans l'équipe peindre, qu'on soit acteur de la scène, musicien, graffeur, dessinateur ou chercheur. On a chacun un apport en fait en termes de compétences qui est différent. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à... Alors, c'est pas toujours facile, hein, le dialogue. Il y a des fois, ça donne lieu à des choses absolument extraordinaires qu'il faut gérer. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble pour écrire cette histoire et pas la faire les uns contre les autres. Parce que, d'abord, parce qu'au sein de l'équipe de chercheurs, vous l'avez compris, la moitié des gens, c'est des icos. Enfin, voilà, on a tous plusieurs vies dans ce projet, donc il n'y a pas trop de séparation entre la recherche et puis le reste de l'équipe. Voilà, comme l'illustre, ça, c'était à Caen.
Voilà, la journée à Caen.
Ah oui, aujourd'hui, non, c'est la 26e, on ne l'a pas précisé, ça doit être la 12e-13e qu'on fait en région. Alors là, on va passer très rapidement, mais en même temps, c'est un peu le cœur de notre projet, c'est la question de l'archive. Parce que ce qu'on cherche à faire, ça serait d'arriver à créer, je me tourne vers l'institution là, on rêverait de créer en fait un centre de ressources ouvert à tous sur les cultures alternatives qui rassemblerait notamment les archives du TOC en France, et aussi pour les protéger. Alors les archives, c'est quoi? Les archives de ce mouvement, d'abord, en premier, c'est des documents sonores. Alors, bon, pas ça, c'est une démo. Les archives, c'est aussi des photos. Ça, c'est le punk en Corse.
Ah ben voilà, tu vois Laurent, dont je te parlais.
Voilà, où on a prévu d'aller la
démo. Punk en Corse.
Dans le maquis, voilà. C'est évidemment les archives des flyers, ça vous connaissez tous. Là, Michel reconnaîtra les flyers d'où ils viennent, là, de la miroiterie. C'est aussi des documents qu'on fait, qui émanent des groupes eux-mêmes, ça vous voyez, c'est à Rouen. C'est tous les réseaux qui lient les musiciens entre eux, avec tous les groupes de Rouen, comment, qui joue avec quoi, qui connaît qui. Donc ça, c'est un document qui est hyper précieux, évidemment, pour nous. C'est des fanzines qui sont conservées à la fanzinothèque, entre autres, ou chez les acteurs. C'est des graphes, mais vous voyez quand on parle de fragilité de lieu, depuis ça c'est un squat, le squat de la miroiterie, le lieu il n'existe plus, donc
en gros,
sans photo, enfin on n'a plus de traces de cette mémoire.
Donc on a pris en photo, et Michel est là, la miroiterie il est en haut, il travaille dans l'équipe, on a pris en photo tous les murs, les graphes, etc. On a conservé cette mémoire du lieu, qui est la miroite, pour ceux qui connaissent, ça a quand même été un lieu absolument incroyable à Paris, qui est un petit squat, mais qui avait une vocation quasi internationale, hein, de programmation. Pour le peintre, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux.
Voilà, et les archives, c'est aussi ce que racontent les gens. Donc en fait, ce que vous allez faire cet après-midi, c'est aussi de l'archive pour nous. Et c'est pour ça que tout est capté et mis en ligne sur notre site pour générer de la ressource et après pouvoir réécouter, travailler dessus sur la matière, etc. Alors les archives, on en fait quoi? Donc vous voyez, c'est Dominique et Monique qui sont là, qui nous ont confié les archives de Radio Éphémère. Qui était une radio libre toulousaine qui avait 35 ans d'existence. Donc ils les ont amenés depuis Toulouse dans un camion, on les a montés dans mon bureau. Alors ça, on a fait un travail similaire autour des archives de la Rock School Barbet. Donc là, cette fois-ci, c'est Manu qui est dans la salle, qui s'en est chargé dans le garage de ses parents.
Et du coup, nous a confié ces archives.
Et du coup, là, on est en train de classer les revues de presse par année. Et on est en train de faire un petit document où on va vous envoyer toutes les... Enfin, toutes. Grossièrement, ce qu'il y a, quoi. Qu'il faudra après, je pense, ramener pour un tri, un classement plus précis.
Voilà, je vous ai épargné la vidéo où Manu fait... Ensuite, on les classe.
Alors là, tiens, d'ailleurs, j'ai un moment, on est à la mission des archives du ministère de la Culture. Hein, on a un partenariat avec...
Et à la fin, elles finissent dans des cartons avec un bel inventaire et qui permet donc aussi de travailler dessus et qui permet aussi d'ailleurs à la radio de valoriser son fond parce qu'il est accessible, bien rangé et comme ça pérennisé aussi dans un carton qui est un carton de conservation. Alors on va aller très très vite, on va prendre 5 minutes là. Qu'est-ce qu'on fait quand on cherche à écrire l'histoire de la scène punk en France? Alors on travaille sur 4 grandes choses.
Alors, on est parti un petit peu des paradoxes hein, du col de temps, ben, travailler sur comment cette culture musicale s'inscrit dans le temps pour un mouvement qui dès le départ, s'estimait sans futur. C'est assez fascinant de voir que 40 ans après, il y a toujours des punks. Donc on est parti de cette question-là. Donc c'est pour vous montrer un petit peu cette notion de génération sur la première génération que j'ai appelée la génération Epelmanouis, avec un contexte, des artistes particuliers, une esthétique aussi. Très particulière, on pense à la pochette de Métal Urbain par exemple, voilà, et un son particulier ou un ensemble de sons. Une deuxième génération où, pour le dire très très vite, on passe de cette dimension politique pour la première génération qui était une politique de contestation sociale, disons, et culturelle, à quelque chose qui se politise, mais alors pour le coup, au sens d'une politique plus politicienne, avec bon, ce message délivré notamment par les Verrues, la jeunesse envers le Front National, là on est passé à autre chose. Un son aussi qui, d'une certaine manière, s'est peut-être homogénéisé, et un look aussi qui a tendance à se codifier davantage. Alors évidemment, le contexte est important sur cette question de la politisation parce que l'arrivée de la gauche et le virage de la rigueur quasiment 2 ans derrière, on sait ce que ça a donné en termes de montée des extrêmes et on sait ce que ça a donné en termes de réaction justement de la scène punk, cette politisation et ce refus en quelque sorte avec des thématiques, hein, lutte contre les violences policières, contre le racisme, etc., etc., dans des contextes comme l'affaire Malikoussekine, la dramatique, bon, voilà. Un petit peu le peuple. Et puis la troisième génération qui passe à travers ces années, Sarkozy, Chirac. Bon, alors sur cette troisième génération, peut-être quatrième, hein, on n'a pas. C'est juste pour vous montrer de quelle manière on avance sur cette question du temps qui est quand même un petit peu compliquée. Voilà. Avec. Ce qui est intéressant, on le verra sans doute aujourd'hui, c'est voir comment localement les scènes s'intègrent ou pas dans ce schéma hein, temporel, première, deuxième, troisième, voire quatrième génération, évidemment. Est-ce que ça match ou pas, hein, finalement. Bon, on va passer rapidement, c'était la deuxième question, c'est celle de l'espace, comment une culture s'inscrit dans l'espace. Alors, à quoi ça renvoie? Comment les groupes peuvent construire des identités locales ou régionales sur cette question du punk? Bon, on a mis ici le passage des Verrues au Ramoneur de Menhir. Hein. Bon, tout le monde connaît, j'imagine, les Ramoneurs de Menhir, cette espèce d'hybridation entre la culture punk à la Verrue et puis la culture bretonne avec une bombarde, enfin des instruments nouveaux. Hein, ça donne quelque chose. Et on n'y a pas encore été, mais on va aller sur le Pays Basque aussi, voir comment, et on ira aussi en Corse, voir comment région par région ont été réinterprétées ces cultures, cette musique punk. Alors, sur la question des systèmes de représentation, ça c'est fondamental, on en a dit deux mots, mais c'est une vraie interrogation sur comment la scène punk a été représentée, quelle forme de médiation, comment on a médiatisé, mais comment on a médié aussi, comment la présenter en fait, hein, qu'est-ce qu'on a... On avait mis un exemple que vous avez frappé en 77 sur cette... c'était très humoristique et très dans l'esprit punk, c'est-à-dire qu'il y a une fois qu'il avait publié un roman photo punk, Hein, vous voyez, avec Sticky Toys, groupe parisien, et c'était une manière de présenter à ses lecteurs avec beaucoup d'humour hein, ce que pouvait être le punk. Et on voit dans ce petit roman photo punk la vie, j'ai envie de dire, entre guillemets, presque du groupe punk idéal. Ah oui, ces formes de médiation sont importantes pour voir comment on parle du punk, comment on le présente à un lectorat plus important. Voilà, et on travaille aussi sur ce qui est une autre forme de paradoxe, c'est-à-dire cette référence à peu près constante à quelque chose de kaléidoscopique, anarchique, qui refuse tous les codes, etc. Mais où on sent bien quand même que quand on regarde de plus près les codes, on peut les remettre, on peut les construire. Des codes esthétiques, par exemple, j'ai choisi cette génération des années 80 autour de la crête, et la couverture de Times, mais si on va chercher un peu plus loin, on voit que dans la culture cinématographique, cette question du mohawk ou de la crête, elle est là avec De Niro. Et sur la couverture du magazine New Wave, sur ces mêmes années, on voit réapparaître cette crête. Donc regardez un petit peu comment on remet de la cohérence, hein, on reconstruit des catégories voilà, sur ce mouvement punk.
Et le dernier chantier qui nous occupe, c'est en fait comment se construit ce qu'on appelle la violence, mais la spécificité des rapports sans destin, des rapports sociaux au sein de la scène punk, autour de trois choses. La violence des émotions, sans que violence soit forcément entendue au sens violent, on se tape dessus, mais au sens de l'intensité en fait, des émotions. Qu'est-ce qui se passe pendant un pogo? Qu'est-ce qui se joue en fait du point de vue de l'individu, etc. La deuxième chose, c'est la question du corps, parce qu'on sait bien que le corps punk, c'est pas un corps standard, c'est un corps qui est transformé, tatoué, percé, abîmé aussi parfois. Donc il y a tout ce travail autour du corps. Et la dernière chose, c'est le travail autour du genre, de la question des rapports entre les hommes et les femmes. On s'est rendu compte, pour avoir un peu travaillé, que la scène punk n'est pas beaucoup plus ouverte aux femmes que le reste de la société. Donc c'était intéressant, même si les punks disent ici, c'est bien ouvert, il suffit de lire le corpus, hein, le mot qui apparaît plus, c'est salope. Donc l'idée, c'est aussi de s'interroger sur ces paradoxes du punk qui fait que, en fait, il y a des choses qui pourraient sembler des espaces de libération et qui en fait ne sont pas.
Ça se questionne.
Ça se questionne. Plus un nouveau travail. Alors Olivier, il fait l'autre versant. Il fait plutôt tout ce qui est voix, chanter, et nous, on essaie de travailler autour du son. Ce qu'on essaie de déterminer, c'est comme on ne sait pas trop qu'est-ce qui est punk de qu'est-ce qui n'est pas punk, que personne n'est d'accord. On va essayer de le déterminer de manière un peu plus scientifique et de manière un peu plus... l'idée, c'est de faire un petit logiciel où après, on fait passer plein de morceaux et on voit s'il y a des caractéristiques sonores du punk. On sait pas, on peut pas vous garantir une réponse pour l'instant, mais en tout cas, ça va être le travail des prochaines années aussi. Alors, on a une base de données collaborative qui, pour l'instant, n'est pas trop remplie parce qu'on n'a pas tellement de temps, mais elle existe. L'idée, c'était que tout le monde pouvait rentrer les informations sur ces groupes, mettre les pochettes de disques, etc. Donc, vous pouvez aller y faire un tour si vous n'avez rien à faire un dimanche pluvieux et rentrer les informations.
Pour nous, c'est important parce que quand on essaie de lister, de faire un état des lieux vraiment de la scène pop en France, on a besoin que les informations sur tous les groupes, quel que soit qu'ils aient produit un 45 tours ou une démo ou pas, c'est pas très important, mais on essaie de ratisser large. Donc tous les groupes constitués, voilà, on a besoin de ces infos-là. Donc c'est vraiment collaboratif au sens où on a besoin que les acteurs témoignent en quelque sorte et participent à cette base de données. Enfin, c'est un des moyens qu'on s'est donné, un des outils qu'on s'est donné pour travailler en tout cas.
Donc j'ai mis la fiche de Montpellier, mais comme vous voyez, c'est la 26e. Donc on essaie vraiment, avec ces journées, de remettre les gens en contact, parce qu'il y a des fois, ils ne s'étaient pas revus depuis longtemps, d'arriver à parler bien des archives pour en récolter derrière. Enfin, le but, c'est vraiment ces journées auxquelles vous êtes là aujourd'hui. Hein, c'est que la première phase du travail. Après, il y a tout un travail de retour sur le terrain pour refaire parler les acteurs, ce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire non plus dans toutes ces journées-là. En fait. Donc, il va falloir qu'on retourne dans les villes dans lesquelles on est allé pour refaire un travail de terrain, de collecte d'archives, de mémoire. Voilà, c'est des journées, donc vous l'avez compris, où il y a à la fois des communications scientifiques en format classique, mais aussi des acteurs qui parlent. Il y a de la musique, donc Vomix, ici présent, se reconnaîtra, là, dans les Sex Pistols, à Toulouse. Voilà, il y a des concerts, Michel se reconnaîtra, puisqu'il nous fait j'ai mis celui d'aujourd'hui aussi. Voilà. Il y a parfois des expos, donc des performances, des expos photos. Voilà. Toujours quelque chose autour de la nourriture, parce que c'est important entre eux. Voilà. Notre preneur de son, qui appartient parfois à la mafia. Donc, voilà.
C'est la seule corde.
et c'est la scène corse, et le site internet de Punk, qui est vraiment le site, il est plein de ressources, on essaie de le tenir à peu près à jour. Il y a toutes les captations des journées d'études depuis la troisième, parce qu'avant on n'avait pas rencontré Dominique. Et il y a toutes les publications, tout ce qu'on fait, enfin vraiment c'est, on essaie de tout mettre qui a un rapport avec le projet. On prend une minute pour finir. Punk, c'est quoi ?
L'acronyme de Punk is not dead.
Punk, pas mort.
C'est aussi le nom d'un projet de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976 jusqu'à nos jours.
Un retour vers nos futurs qui interroge l'existence et les conditions d'existence de la scène punk en France depuis 40 ans.
Ça parle de musique et de musiciens, d'artistes et de visuels, de la débrouille et de la vie sur scène ou au squat, d'une création en résistance à Caen, Rouen, Paris, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Montaigu, Lyon, Saint-Étienne, Le Val-d'Ajol, Montpellier.
Ça parle des marges et d'un regard sur l'autre.
Ça parle de la vie, de la poésie et du corps, de la danse et des manches de guitare, des tatous et des marques, des filles et des garçons, de la dope et des avenirs qui en meurent, de la jeunesse et de la vieillesse qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à nos futurs.
Ça parle de 77 et des années 80, 90, 2000, 2010.
Ça parle d'aujourd'hui et sans doute de demain.
Ça cherche, ça discute, ça polémique, ça gueule parfois, souvent même, mais toujours pour comprendre.
Bref, un truc essentiel, piloté et mis en musique par des chercheurs et des musiciens.
Une équipe terrible et tellement motivée.
Do it yourself, just take a look. Voilà, on vous remercie.